The executives assigned to this show decided to test it in Jersey. As a result, they think you mouth breathers are too stupid to understand my masterpiece. So listen up, dum-dums, and let me set the stage.
But the whole reason we're doing this thing is because if the girls reported their assaults, they wouldn't get any justice from Darlington. We beat up a lot of people based on this theory.
I'm sure there's a very funny story behind this. And I don't mean funny like ha 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 funny.
Oui, je sais, vous les avez fait à votre image, vous les aimez bien, tout ça, mais excusez-moi de vous dire qu'ils sont quand même furieusement cons.
Give mommy a little kiss.
Allora.
The problem is not that there is evil in the world, the problem is that there is good. Because otherwise, who would care?
My daughter lives with her mother, no matter if she wants me to pay for every damn thing she can right-click online. When she talks to me at all, she's riding me about white male privilege. The myth of white male privilege.
Oh, man! This was supposed to be my big moment.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie. L'épisode 9 de la saison 5 se profile avec moi en studio, évidemment, l'ami Aurore. Bonsoir, Aurore.
Bonsoir.
Est-ce que ça va bien ?
Ça va bien, oui.
Nous sommes repartis pour une nouvelle édition de cette émission qui vous parle séries télévisées de manière intelligente, en tout cas on l'espère. On va commencer, comme à l'habitude, avec une revue de
deux nouveautés.
Deux nouveautés, voilà. J'hésitais sur le nombre des nouveautés que tu as pu voir pour nous et dont tu vas nous en faire un court résumé et nous partager tes impressions. On t'écoute.
Oui. Alors, la première nouveauté dont je vais parler est une sorte de mea culpa. C'est-à-dire que j'avais cité le nom à la va-vite il y a déjà un petit temps, c'était en début de saison, en disant que il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et j'avais cité American Vandal dans le tas avec The Orville, en disant finalement, il n'y a rien de très prometteur. Parce que de fait, American Vandal, le premier épisode que j'en avais vu, me semblait un exercice sans doute un peu amusant, mais un peu vain. J'explique de quoi il s'agit. Il s'agit d'une sorte de faux documentaire, un petit peu sur le même mode que Making a Murderer, et qui se trouve également sur Netflix. J'ai peut-être pas précisé qu'il s'agissait d'une série Netflix. Et qui, donc suit propose une enquête également, mais autour d'un crime sans doute beaucoup plus amusant que la série de base, c'est-à-dire le fait que quelqu'un a dessiné des pénis sur toutes les voitures des professeurs d'un lycée américain. Et donc, un étudiant du lycée a été renvoyé de l'école. Parce qu'il était accusé d'avoir dessiné ses pénis. Et donc, à partir de là, il y avait une sorte de contre-enquête qui se mettait en place pour essayer de voir si par hasard quelqu'un d'autre n'aurait pas fait le coup. Comme je l'ai dit, au début, on se dit « Ouais, d'accord, mais bon, enfin, ça... » Autant oui, ça peut être amusant, mais si on doit se taper 8 épisodes où on fait semblant de prendre au sérieux cette histoire-là, ça semblait un petit peu brasser du vide, quoi. C'était plus un exercice de style qu'autre chose. Sauf que, en fait, quand on va un petit peu plus loin dans la série, on se rend compte que... Il y a les deux personnes qui font ce documentaire, en fait, vont petit à petit s'intégrer dans leur enquête. On va les voir de plus en plus devant la caméra aussi, et pas seulement derrière. Et du coup, la série prend de l'ampleur, quoi. Ça devient quelque chose de plus concret. Il commence à y avoir des personnages auxquels on peut s'attacher. Et puis, ils prennent ça surtout avec tellement de sérieux que ça en devient beaucoup plus drôle. Donc, voilà, en fait, mea culpa. Donc, si j'étais passée à côté de cette série au début, ça vaut la peine de continuer American Vandal. Il n'y a que 8 petits épisodes, j'en ai vu 6 pour le moment, et franchement, c'est plutôt amusant finalement.
Mais qu'est-ce qui t'a fait y revenir ? Parce que je me semblais que tu avais abandonné l'aventure.
Oui, j'avais abandonné l'aventure. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que tu sais bien que Netflix, même s'il t'abandonne, il te le laisse toujours là. Ouais,
la tentation était là, oui.
Continuer cette série que vous avez déjà commencée. Probablement que ça a joué en partie. Et puis, autre chose aussi.
Tu es faible.
Oui, ça c'est clair. Mais aussi, j'ai commencé à en avoir des échos plus positifs venant d'outre-Atlantique qui m'ont fait me dire que peut-être ça valait la peine d'aller y rejeter un coup d'œil, et de fait, ça valait la peine.
Bien.
Voilà, donc ça c'était pour la première série à proposer, American Vandal, disponible sur Netflix. La deuxième, cette fois-ci, alors à nouveau, j'ai voulu rester dans le même thème pour ces deux nouveautés, même si ici c'est pas vraiment un documentaire, mais c'est une série qui nous propose une reconstitution d'une affaire, puisque c'est une affaire criminelle, qui s'est véritablement passée. Je veux parler de Law and Order True Crime. je le dis bien.
Ah, là, c'est basé sur des vraies histoires.
Oui, c'est basé sur une histoire vraie. On voit que NBC a eu envie de surfer un petit peu sur la vague qui avait permis à American Crime Story, il y a un an et demi, d'avoir énormément de succès, souviens-toi, autour de l'affaire O.J. Simpson. Bon, cette fois-ci, évidemment, ils ont dû se choisir une autre affaire. Un peu moins connu, en tout cas chez nous. Moi, je n'en avais jamais entendu parler, je dois t'avouer. Il s'agit de deux frères, les frères Menendez, si je me souviens bien, qui sont accusés d'avoir tué leurs parents de manière assez brutale, quoi. Ça avait l'air vraiment, vraiment sanglant. Et donc voilà, à nouveau, on a quelques acteurs plutôt reconnus, et je mettrai en tête de file Eddie Falco, qui est là à nouveau avec une coiffure des années 80, pas piquée des verres, hein, un petit peu comme ça avait été le cas pour Sarah Paulson dans American Crime Story. On a donc la reconstitution de l'époque, les vêtements, les voitures, enfin bon, tout le bling-bling de cette époque-là, en tout cas dans ces milieux-là, puisque c'est un milieu assez aisé, très aisé même, et bon, j'en ai vu que 2 épisodes, donc je sais pas vraiment jusqu'où ça va aller cette histoire, vu que comme je te l'ai dit, je connais pas l'affaire, mais l'impression que j'en ai eue, en tout cas des 2 épisodes que j'ai vus, c'est que c'était beaucoup moins bien fait qu'American Crime Story. Alors, ceci dit, si tu te souviens bien, il y a un an et demi, quand on avait parlé d'American Crime Story, j'avais dit...
La même chose.
Ouais, bof, je vois pas trop l'intérêt de voir un truc, une sorte de reconstitution comme ça. Et puis en fait, bah, à nouveau, c'est une série sur laquelle j'étais revenue par la suite, et dont j'avais totalement vu l'intérêt. Donc, il n'est pas totalement impossible. Probablement que j'ai peut-être du mal avec les séries qui nous proposent quelque chose d'un peu plus réel, un rapport plus direct avec la réalité, moins fictionnel. Mais toujours est-il que ici, j'ai trouvé qu'au niveau de la reconstitution, notamment, ça faisait beaucoup plus cheap que dans American Crime Story, où on voyait quand même qu'il y avait un travail de reconstitution presque image par image, qui était absolument colossal. Et là, ça paraît avoir moins de moyens. Alors, c'est peut-être juste une impression, ou alors c'est peut-être juste le pilote qui était moins réussi et que la suite est mieux, mais j'ai pas été convaincue du tout, quoi. Donc voilà. Et jusqu'à présent, bon, ça a quand même déjà commencé il y a un petit temps. Jusqu'à présent, j'ai pas entendu ou vu de retour enthousiasmé sur cette série-là, comme ça avait été le cas autour d'American Crime Story, où, ben oui, là, j'avais été poussée plutôt à me forcer à la curiosité. Ici, ça a l'air plutôt calme de ce côté-là, quoi. Donc, c'est peut-être un coup dans l'eau pour cette tentative de récupération de la part de NBC.
À suivre, tu auras le courage quand même de tenter l'aventure un peu plus longuement.
Bof. J'ai pas tellement envie, je t'avouerai. Oui, non.
Il me semblait que tu m'avais déjà dit ça pour la précédente, et tu es quand même revenu.
Mais oui, mais écoute, si j'entends des avis contraires, alors je changerai sûrement d'avis, parce que, comme tu l'as dit, je suis extrêmement faible.
Oui, tu te laisses avoir assez rapidement.
Je me laisse très facilement avoir, oui. Et souvent, d'ailleurs, ben, je me laisse avoir, et au final, je ne fais que confirmer ce que je pensais au départ, mais quand même, parfois, on peut avoir de bonnes surprises, donc je continue à me faire avoir.
Bon, ben, on verra pour la suite. En tout cas, cette partie-là, tu l'abandonnes. Donc, constat mitigé pour cette deuxième série.
Oui, plutôt. Alors, si on est passionné par ce genre d'affaires ou plus intéressé par les séries qui ont un petit côté documentaire, même si ici, évidemment, c'est pas un documentaire, mais une reconstitution, mais ça peut probablement intéresser les gens qui sont plus touchés par ce côté-là. Mais comme je te l'ai dit, moi, je suis très, très fiction, très de ce côté-là de la barre, et donc ça me convainc pas plus que ça, quoi.
Bien, bon, ben on en termine là pour le tour autour des petites séries que tu as visionnées pour nous, et puis on va marquer une pause musicale.
Oui, et on va s'écouter More Than a Feeling de Boston, entendu dans 1 milliard de séries différentes, notamment Scrubs, Cold Case, Superstore, The Wire, The Middle, The Mindy Project, The Walking Dead même.
Bon, comment bref. Tu fais pour retrouver toutes ces origines? Il y a un site qui te le référence.
Oui, il y a un site qui référence.
Il l'a pas identifié à chaque fois. Encore là. Quoi?
Mais ça m'arrive quand même pour certains morceaux qui, étonnamment, sont tout à coup à la mode à un moment, et tu les entends dans plusieurs séries sur un court temps, mais là c'était pas le cas en l'occurrence.
On s'écoute ça et on se retrouve juste après, évidemment.
I close my eyes and I slipped away. forget the day and dream of a girl I used to know. I closed my eyes and she slipped away.
Suite de cette émission Série Folie, épisode 9, saison 5, on va aborder un sujet du jour. Aurore, tu vas le décrire mieux que moi.
Alors, on va parler des lignées de séries, du fait que les séries, finalement, elles n'existent jamais seules, elles existent toujours dans des familles, on peut les raccrocher à d'autres séries pour plein de raisons différentes et c'est un petit peu de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui.
Bonne idée. Allons-y, on t'écoute. Hein.
Alors, comme j'ai dit, ben, on peut les raccrocher ensemble pour différentes raisons. Et donc, on va commencer par essayer de voir quelles sont ces différentes raisons qui peuvent relier les séries les unes avec les autres, en faire des familles. Parfois, évidemment, en fonction du critère, les familles ne seront pas exactement les mêmes. Alors, pour commencer, premier type de lignée que l'on peut observer, ce sont simplement les lignées qui suivent l'évolution des créateurs, des auteurs, des showrunners. Enfin, on peut, lorsqu'on a de la chance et beaucoup de temps à perdre, suivre la carrière de certaines personnes dont on admire particulièrement le travail et voir évoluer ce travail à travers souvent les décennies en l'occurrence. Ça peut être le cas de quoi bah des showrunners qui sont aujourd'hui les plus connus. Hein. Quel nom est-ce qu'on pourrait citer d'après toi?
Ah, vas-y, fais-toi plaisir.
Bah, écoute, David Simon, ouais. Déjà, hein, par exemple, ce serait une bonne idée. Alors, on peut aussi penser dans un tout autre style, par exemple, aux séries de Shonda Rhimes. On peut penser aux séries de Brian Fuller. On peut penser aux séries de David Milch, etc., etc. Bien souvent, quand on est vraiment passionné et qu'on vient de découvrir un créateur qui nous touche particulièrement, eh bien, ça peut être intéressant d'aller voir les séries auxquelles il a collaboré précédemment. Et évidemment, ben, on aura tendance à vouloir suivre les séries qu'il créera par la suite. Quoi, hein, ça paraît assez logique.
Si, on apprécie évidemment le boulot. Oui,
oui évidemment. Il y a peut-être aussi certains créateurs
qui
dont on
fuir.
A repéré le oui. nom comme étant plutôt un style qui nous plaît pas et donc qui nous fera plus fuir qu'autre chose. Alors, on va pouvoir suivre, comme je l'ai dit, comme ça, l'évolution de ces auteurs, de ces showrunners, de ces créateurs au sens large, et notamment l'évolution de leur art. On va pouvoir peut-être observer comment ils ont peaufiné leur manière de raconter des histoires, et ça peut être passionnant d'observer ça. Ça peut être aussi chouette parce que ça va te permettre de voir comment petit à petit ils ont dégrossi leurs propos à propos du monde, hein, ce qu'ils ont envie de dire finalement à leur public, quel est le message principal qu'ils essaient de transmettre à travers leurs histoires. Les meilleurs auteurs sont généralement les auteurs qui ont quelque chose à raconter, et on peut observer qu'au fur et à mesure de leur évolution, en tout cas si tout va bien et qu'ils évoluent bien, eh bien ce propos va devenir de plus en plus clair, de plus en plus précis, de plus en plus rigoureux. Et donc, ça peut être très intéressant à observer aussi pour ça. Et puis, y en a certains qui vont se spécialiser parfois dans un univers ou dans un style particulier. Et donc, ils vont peaufiner aussi à ce niveau-là l'univers qu'ils mettent en place. Par exemple, même si David Simon, dont on avait cité le nom, propose des séries qui sont relativement différentes les unes des autres à travers le temps, malgré tout, il s'agit toujours de nous raconter une forme de réalité. Il y a toujours une volonté d'être au plus près de la réalité, dans une démarche journalistique, même dans ces séries historiques. Enfin, on voit qu'il y a vraiment une volonté d'être proche des faits tels qu'ils se sont produits, quoi. Donc, ça peut être intéressant de voir comment il s'est peut-être défait de certains tics qu'il pouvait avoir au départ, de certaines facilités qu'il pouvait utiliser dans ses premières fictions pour peu à peu atteindre une forme de réalité plus brute, même si évidemment, étant donné qu'on est en train de parler de série, qu'on est en train de parler de fiction, c'est toujours une réalité fictionnelle, hein, mais y a une volonté à travers certains éléments, comme par exemple le fait d'entraîner, d'avoir moins une histoire, tu vois, vraiment une histoire racontée, mais de suivre de plus en plus des personnages dans leurs aléas, sans véritablement qu'il y ait une trajectoire claire à suivre, semble être un des éléments qui le rapproche d'une forme de factualité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, qui était moins présente dans The Wire, où malgré tout il y a bien davantage une forme de narration, quoi. Qu'est-ce que je raconte ? De direction dans la narration, c'est plus ça que je veux dire. Il y a un objectif final quand même, quoi. Tu vois ?
Oui, je vois. Ce que je vois surtout, hein, je vais t'interrompre, on va un peu faire une petite parenthèse, c'est cette lecture que tu as du récit proposé par un réalisateur ou une série en particulier, il se fait vraiment a posteriori pour pouvoir décortiquer cette évolution, justement.
Oui.
Ou est-ce que tu vas, sur une série qui t'a bien plu, vraiment aller regarder, par exemple, une des précédentes, en quasiment oubliant le récit, l'histoire, pour analyser déjà ? Ça se fait en temps réel ou c'est vraiment un tout
Oui, c'est un tout. Hein. Mais
est-ce que ça ne te gâche pas le plaisir innocent de regarder une série en sachant que tu vas vouloir justement comparer par rapport à, au travail précédent ou celui à venir ou...
Écoute, pour moi, la fiction n'est pas un plaisir innocent. C'est un plaisir, mais un plaisir
oui, mais on comprend bien.
Plus élaboré que ça, tu vois. Le simple plaisir de découvrir une histoire tout à fait nouvelle, originale, etc., n'a qu'un temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, malgré tout, les structures narratives se répètent d'une fiction à l'autre, et donc tu finis par ne plus, enfin, avoir besoin d'autre chose pour vraiment t'intéresser à une série. Et de fait, si t'écoutes, par exemple, surtout, ça se sent surtout quand je parle des nouveautés que je regarde,
ton regard est déjà très critique.
J'oublie, enfin, c'est surtout que au niveau purement de qu'est-ce qui se passe exactement, enfin, tu vois, j'oublie beaucoup plus facilement parce que de fait, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce sont des détails qui nous cachent la structure qui elle m'intéresse davantage. Donc, c'est vrai que j'ai tendance probablement à regarder plus. La structure qui se cache derrière tout ça.
Mais bon, il y a malgré tout encore des séries justement que tu apprécies et qui arrivent à te faire oublier cette structure, qui te font rire, qui te font peut-être avoir quelques larmes.
Oui, bien sûr.
Et celles-là, elles fonctionnent peut-être encore mieux finalement.
Oui, sans doute. C'est vrai que celles qui arrivent à me surprendre sont probablement d'autant plus méritantes, on va le dire comme ça, puisque il en faut peut-être.
Il y a une
plus.
Part d'oubli, il y a moins.
Il y a moins d'innocence.
Voilà, te font quand même te transportent.
Okay. Oui, c'est vrai que je vais donner un exemple comme ça. Malgré tout, je fais sa pub aussi. J'ai pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent. Mais la série The Good Place, par exemple, pour le moment, c'est un véritable plaisir parce que je ne sais pas du tout où ils veulent m'emmener. Et c'est vrai que c'est aussi un vrai plaisir. Alors maintenant, c'est un plaisir sur l'instant. Mais c'est pas pour autant que je me souviens davantage de exactement tout ce qui s'est passé. Tu vois, à nouveau, c'est plus quelque chose de général. On a tous un regard différent, hein, et moi, les détails, ça a jamais trop été mon fort. Je crois que ça s'est déjà remarqué. Donc voilà.
Voilà pour cette parenthèse.
Oui, voilà pour cette parenthèse. Alors, ça, c'était pour quand on a envie de suivre les séries en fonction de son créateur. Parfois, ça peut être juste parce que tel scénariste a participé. Hein, c'est pas forcément le créateur principal à chaque fois. Hein. On va aussi pouvoir suivre certaines lignées de séries en fonction de l'univers. Je pense par exemple, il y en a certains qui sont totalement passionnés par les séries fantastiques et qui ne regardent que des séries fantastiques. Ça peut aussi être une manière de s'intéresser à cet art-là. Et évidemment, mais à partir du moment où on s'intéresse principalement à ce genre de séries-là, on va pouvoir faire des liens. Entre elles, on va voir les hommages, on va voir les emprunts, on va voir aussi tout ce qu'il y a de récupération de certaines séries à celles qui l'ont succédé, etc. quoi. Donc, à ce niveau-là aussi, ça peut être plutôt intéressant d'observer certains genres en particulier parce que ça permet de voir qu'en fait ces séries ne sont pas des sortes d'univers totalement isolés qui existeraient pour le seul plaisir d'exister. Ce sont aussi des petits morceaux à l'intérieur d'un univers beaucoup plus large dans lequel il y a énormément de liens qui peuvent se faire sans arrêt. Là, pour le moment, si derrière ma voix est en train de passer le générique d'Homicide, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est cette série-là que je suis en train de binge-watcher pour le moment, qui m'a inspiré le sujet de cette émission. Homicide, c'est vraiment, quand on le regarde a posteriori, maintenant, on est quoi, 20 ans, plus de 20 ans plus tard, c'est très intéressant parce que tu y vois en germe autant The Wire que Oz. Il y a vraiment très très clairement, autant au niveau des acteurs et de certains personnages que au niveau de certaines histoires. Pour The Wire, évidemment, les décors aussi, vu que c'est filmé à Baltimore, ce genre de choses-là, qui font qu'on voit en germe ces deux séries-là qu'on connaît par ailleurs, vu que on a fait un bond dans le temps depuis. Et puis, on peut faire aussi des liens avec Law and Order, qui était diffusé en même temps et avec lequel il a fait d'ailleurs des crossovers. Et je crois d'ailleurs qu'il y a certains personnages qui sont passés d'une série à une autre par la suite, etc. Donc, et puis évidemment, on va aussi, si on a... Alors là, c'est probablement mon gros défaut, c'est que ma culture sériephile s'arrête aux années 90 et j'ai très peu de culture d'avant les années 90. Mais si on a la culture nécessaire, notamment en série policière, j'imagine qu'on voit aussi tout ce qui a mené à cette série-là, quoi, hein, des trucs du genre Elle et l'eau ou ce genre de série-là dont on entend beaucoup parler mais que j'ai jamais eu l'occasion de regarder. Et donc c'est super intéressant grâce à ça, parce que finalement on peut observer tout un imaginaire en train de se mettre en place, quoi. Donc voilà, au niveau de la perpétuation d'un univers, on a aussi des lignées de séries. Au niveau des questionnements aussi, hein, il y a certaines séries qui vont davantage porter un questionnement autour de la vérité, d'autres qui vont davantage porter un questionnement autour de est-il possible de vivre ensemble. Il y en a qui vont plutôt se poser des questions autour de la justice. Enfin, on a des grandes thématiques comme ça qui vont pouvoir être rencontrées dans des séries différentes qui, du coup, vont pouvoir se faire écho l'une l'autre. Et puis, au niveau des modes de narration, éventuellement aussi, dans l'inventivité de la manière dont on va raconter l'histoire, il y a certaines séries qui sont cousines, même si peut-être elles ne font pas partie des mêmes univers, peut-être elles n'ont pas le même créateur, mais on sent qu'il y a malgré tout quelque chose qui les rapproche, quoi. Donc voilà, on a plein de bonnes raisons de mettre en lien les séries les unes avec les autres. On pourrait dire qu'on a des sortes de famille de séries, mais finalement toutes les séries sont un petit peu... peuvent être reliées les unes aux autres en fonction du critère qu'on va choisir. Le dernier critère auquel je penserai principalement, ce sont les personnages et au-delà des personnages, bien souvent, les acteurs. Parce que même si on peut avoir l'impression que les acteurs sont simplement les porteurs des différents masques qu'on veut bien leur donner en fonction de la fiction dans laquelle ils jouent, en vérité, bien souvent, ils sont porteurs de bien plus que ça. Ils ne sont jamais des pages totalement vierges. Ils viennent avec tout leur passé, et c'est-à-dire avec notre passé aussi, dans la relation qu'on pouvait avoir avec les personnages qu'ils ont joués précédemment. Et donc, y a certaines séries qui vont jouer là-dessus, sur le fait qu'elles vont faire venir pour jouer tel personnage particulièrement sympathique ou particulièrement antipathique, quelqu'un qui, dans le cœur du public, était connu pour justement plutôt être sympathique ou plutôt être antipathique. Et donc, on va pouvoir jouer là-dessus, soit sur le contraste, soit sur la superposition de la sympathie ou de l'antipathie. Et ça va être particulièrement intéressant. Évidemment, on peut penser à une personne comme Bryan Cranston qui a particulièrement bien réussi à se renouveler totalement entre le rôle qu'il jouait dans la comédie Malcolm, où il jouait un rôle comique, et d'ailleurs avant ça dans Seinfeld aussi il était plutôt dans un registre comique, et puis Walter White, où là c'est le monstre absolu qui apparaît devant nos yeux petit à petit, quoi. Et donc à la fois on peut se dire il s'est totalement renouvelé, mais en même temps, pour tous ceux qui ont suivi Malcolm et éventuellement Seinfeld, il y a quand même quelque chose qui reste et qui donne peut-être plus d'effet encore à sa transformation, quoi, parce qu'il était tellement sympathique. Tu vois, et donc ça peut être intéressant aussi. Et par contre, il y a d'autres personnages qui sont tellement marqués, certains acteurs qui sont tellement marqués par un personnage qu'ils ont joué précédemment, que ils sont obligés de composer avec ça dans toutes les séries dans lesquelles ils jouent par la suite. Je pense notamment à James Van Der Beek, le fameux Dawson, qui dans toutes les séries dans lesquelles et même les films dans lesquels il a joué par la suite, a été obligé de composer avec le fait qu'il sera à tout jamais Dawson, quoi. Il porte...
Surtout avec la tête où il chiale, quoi.
Oui, mais dans ses autres séries, généralement, il chiale pas.
Non, mais justement, mais moi, je n'arrive pas. Hein. Mais... Très franchement, il a beau être le plus sympathique du monde, je garde cette image-là.
Mais oui, mais en même temps, le mec a été suffisamment intelligent quand même pour comprendre que Il n'arriverait jamais à s'en défaire, donc autant en jouer, tu vois. Et dans la plupart des séries dans lesquelles il a joué par la suite, alors pas toutes, hein, je pense par exemple à... C'était quoi le truc CSI Cyber apparemment, enfin je sais pas s'il y est encore toujours, mais c'était un petit peu n'importe quoi. Mais dans beaucoup de séries dans lesquelles il a joué par la suite, il joue vraiment avec son image, quoi. Il a compris qu'il n'avait pas d'autre choix que de jouer avec ça. Et il y a plein d'acteurs comme ça, qui sont porteurs de plein de sentiments différents que le public peut leur porter. Et s'ils sont suffisamment intelligents pour jouer avec ça, ils auront une carrière beaucoup plus intéressante. Ça m'arrive aussi souvent quand je suis en train de parler d'une nouveauté, de dire « il y a dedans tel ou tel personnage qui est joué par quelqu'un qu'on aime déjà beaucoup, et donc on va avoir tendance à beaucoup plus donner de chance à cette série-là, parce que même si c'est un tout nouveau personnage, une toute nouvelle série, il y a quand même un résidu de ce que ces acteurs ont joué précédemment, quoi. Ça n'est jamais une page totalement vierge. On a toujours un surplus de sens grâce à ces rôles qui se superposent les uns après les autres. Et ça peut être aussi passionnant d'observer ça. Ça pourrait être passionnant, par exemple, de faire un travail où on observe la trajectoire de différents acteurs à travers les différentes séries dans lesquelles ils ont joué, pour voir comment leur rôle précédent et l'accumulation de leur rôle précédent va jouer sur notre réception du rôle suivant, quoi. Alors ça donne envie de le faire là tout de suite, mais bon, voilà.
Tu vas rester un petit peu quand même.
C'est ça.
Mais en même temps, c'est le cas pour des acteurs vraiment emblématiques, hein, qu'on a adoré. Maintenant, parfois j'ai ce sentiment, j'ai pas de nom en particulier, qu'il y a des acteurs que j'ai plus envie de voir.
Oui.
On a l'impression aussi que la fenêtre ne s'ouvre pas tellement sur de nouveaux talents. Et voilà.
Oui, je sais pas, ça, bah, pas là
en temps en temps, on en recycle quand même quelques-uns, quoi. Tu vois des acteurs qui sont pas au top et pourquoi tu ne les vois pas? À mon avis, c'est parce que, un peu comme quand tu entends le nom d'un producteur quelconque que tu n'aimes pas, bah, tu vas peut-être pas aller voir la série parce que tu sais que ça va pas être à ton goût, quoi. Voilà.
Oui, c'est possible aussi, même si j'ai l'impression qu'il y a... Il y a malgré tout toujours moyen d'être surpris, tu vois, justement, à partir du moment où tu n'aimais pas le personnage qui était joué précédemment.
Alors, à l'inverse,
t'es peut-être d'autant plus surpris si...
Il y a certains acteurs qu'on a tellement aimé dans leur rôle qu'il est parfois compliqué de les voir dans un autre. Bon, je parle pas de Dawson ici, mais Pesci, par exemple, dans la même série, j'ai du mal parfois à le voir dans certains rôles. Quand il est un peu méchant, un peu vicieux.
T'as eu du mal à le voir dans The Affair.
Voilà, exactement.
Dans le pilote de The Affair où il a un rôle peut-être un peu plus brutal qu'on n'attendait pas.
Exact.
Mais bon. En même temps, tu avoueras que tu as regardé cette scène-là avec, malgré tout, en tête l'idée que c'est Pesci qui est en train de...
Ça a peut-être fonctionné. Ça n'a qu'amplifié ma haine pour le personnage.
Oui, mais là aussi, tu vois, on ne pouvait pas faire comme si comme si ça n'existait pas, quoi. Hein. C'était pas totalement...
Il y a ça. Bon, maintenant, après, les séries, bah, comme tu le dis, on a le background des années 90. C'est pas le cas de tout le monde non plus.
Non.
Donc il y a des gens qui débarquent pour la première fois à la vue de cette série-là et qui n'ont pas le même impact que nous, finalement.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, ça dépendra évidemment de notre culture sériphile à chacun.
Mais comme la tienne est très étendue, ça marche
oui,
souvent.
Enfin, comme je l'ai dit.
Ouais, elle s'arrête au début des années 90. Ok.
Oui. Bon.
Pause musicale.
Pause musicale, oui. Alors, on va s'écouter. We've gotta get out of this place de The Animals, entendu dans Tour of Duty et Prime Suspect 1973.
Ok.
In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due, I know. Watch my daddy in bed and crying, watch his hand. One thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due, know it. Watch my dad.
Yeah! it, baby. You know it too.
Je ne me sens plus de joie. Hein. C'est un générique que j'apprécie particulièrement, celui de Friday Night Lights. Bon, il nous reste très peu de temps pour déjà clôturer cette émission du jour. Que dire, Aurore ?
Alors, c'est la partie peut-être un petit peu plus polémique.
De ta
puisque,
théorie.
À partir du moment où j'ai dit ça, j'aimerais quand même en arriver aussi à défendre l'idée que finalement, quand on parle de série, on est toujours en train de parler d'une forme de recyclage. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de créativité ou quoi que ce soit, mais ça signifie malgré tout que l'art de la série, c'est l'art de la répétition et c'est ce qui est justement particulièrement admirable, c'est comment est-ce qu'il y a moyen de recréer du neuf avec de l'ancien. Hein, c'est ça que j'admire particulièrement, c'est comment il y a moyen de redire les choses de manière renouvelée tout en disant finalement peut-être la même chose, mais il n'empêche que c'est quand même nouveau. C'est un art quand même qui n'est pas si évident que ça. Et du coup, je trouve que le discours qu'on entend perpétuellement actuellement, qui est de dire y a plus de créativité, il n'y a que des reboots, des remakes et des retours de séries, des suites, etc. Je trouve que c'est vraiment une déploration débile quand on est fan de séries. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais je déteste ça. Je déteste plus que tout. Mais vraiment, je ne supporte pas de voir que les gens peuvent dire « Oui, c'est quand même dommage qu'ils fassent une saison 2. » Enfin, c'est un comble qu'on reproche à une série de faire une saison 2. C'est quand même tout le but de la série, c'est de durer le plus possible, quoi. C'est ridicule de dire « Ah, c'est dommage qu'on fasse une saison 2. Si t'aimes pas les séries, va regarder des films. » Mais moi, j'aime les séries, j'aime que les univers, ils durent.
Ok.
Voilà.
Et qu'en est-il des séries qui en sont à la saison 24 et qui en fait ne se sont pas renouvelés.
J'ai pas dit que tout arrivait toujours à super bien gérer la durée. Hein. Et d'ailleurs, mais j'ai rien contre le fait que certaines séries meurent et même parfois qu'elles meurent plus vite que ce qu'on les a laissés mourir. Je désigne principalement, par exemple, Prison Break, Heroes, ou que sais-je encore. Et actuellement, il faut avouer que même si on n'en est pas au niveau de Prison Break, c'est vrai que Supernatural est plutôt en essoufflement de plus en plus flagrant et que c'est un petit peu dommage parce que on en espère plus et mieux, même si ils arrivent quand même toujours sur la saison à nous sortir au minimum un ou deux épisodes vraiment, vraiment bons qui nous rappellent pourquoi on les aime. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, si on accepte que des séries meurent, ça signifie aussi qu'on peut accepter qu'elles renaissent. Pourquoi pas ? Si on a un nouveau créateur qui a des super bonnes idées, si on a quelqu'un qui est prêt à relever le défi de totalement renouveler l'univers, moi je suis partante, quoi. Je suis toujours partante. Ça me paraît être la base de la sériephilie, c'est d'aimer voir ce qu'on est capable de faire, en comment on est capable de faire du neuf avec de l'ancien. Voilà, donc je vais défendre l'idée que les reboots, les remakes, les suites, etc., pourquoi pas, montrez-les-moi et puis on décidera
on en jugera
si ça valait la peine ou pas. Mmh. Mais c'est débile de de crier au scandale au départ, quoi. Laissons faire et puis on verra. Voilà. Il faut reconnaître en plus que, mais étant donné que les séries vivent dans un monde de concurrence féroce entre les différentes chaînes, mais c'est normal finalement qu'on ait à chaque fois des gens qui se copient les uns les autres. C'est dans l'ADN même de la création de séries, d'être dans le recopiage de ce qui a marché l'année d'avant dans la chaîne sur la chaîne d'à côté. Donc voilà, même si évidemment, mais comme je l'ai dit, il y a certaines limites au recyclage et il faut que ce soit vraiment du nouveau. Par exemple, c'est vrai que je suis un petit peu mitigée par rapport au retour de Curb Your Enthusiasm, où les reprises de certaines idées de Seinfeld semblent un petit peu trop évidentes et c'est un petit peu embêtant.
Bon, là je m'amuse encore assez bien.
Oui, il y a quand même certains éléments qui peuvent malgré tout continuer à nous faire sourire, hein, il faut l'avouer. Je terminerai donc en disant, mais finalement, le fait que les séries se répondent en permanence les unes les autres, ça permet d'observer devant nos yeux la création d'un imaginaire, d'une mythologie, mais d'une mythologie globale, hein, qui englobe l'ensemble des séries, qui est bel et bien vivante, et c'est absolument passionnant à regarder comment, à travers la réactivation permanente de cet imaginaire, comme si chaque épisode était une forme de rituel qui permettait de redonner vie à certains éléments qui étaient en train de s'éteindre, eh bien, on voit cet imaginaire se perpétuer sans arrêt, quoi. Donc, voilà.
Voilà, le
c'est
mot de la
fin. C'est la
raison
pour laquelle on aime les séries, hein.
Bah, surtout toi.
Mais j'espère que toi aussi.
Mais oui, évidemment, mais voilà, tu me prends à témoin comme si j'étais passionné, surtout aussi loin dans l'analyse des séries, c'est pas le cas. Je t'écoute, j'apprends énormément dans cette émission. J'apprécie les séries évidemment, mais c'est toi qui me les impose aussi un petit peu, hein.
D'accord.
Dans la vie de tous les jours. Merci pour ça en tout cas. Merci aussi pour cette belle émission. Une nouvelle fois, on va se quitter. Je rappelle que cette émission sera évidemment disponible, hein, pour ceux qui voudraient la réécouter ou la découvrir, hein, très prochainement sur Internet, notamment via ce podcast qui sera publié sur le site internet www.seriefolie.be. On va se quitter en musique, Aurore.
Oui, et on va s'écouter Crack the Shutters de Snow Patrol, entendu dans le remake de Beverly Hills 90-210.
Bien, on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cool your bed warm hands down on the broken radiator, and when you lay them freezing on me, I mumble, can you wake me later? But I don't really want you to stop, and you know it so it doesn't stop you. And run your hands from my neck, crack the shutters open wide, I wanna bathe you in the light of day, and just watch you as the waves tangle up around your face and body. I could sit for hours finding new ways to be on each minute, cause the daylight seems to want you just as much as I
again. Crack the shutters open wide.